IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Et nous avons aussi à nos côtés Erwan qui va faire un stage pour quelques jours chez IDFM. Bonjour Erwan. Explorer les leviers de la relance économique, les dispositifs comme ma prime Adapt ou Handibat, les actions concrètes pour lutter contre les fraudes dans la rénovation énergétique, le rôle des BTP, CFA et les parcours d'excellence. Aujourd'hui, vendredi 19 décembre 2025, dernière émission de cette année 2025. Bienvenue dans cette spéciale CAPEB élargie avec le CFA dans le BTP d'Hermont. Et pour développer ces thèmes, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Saussois, président de la CAPEB Grande Couronne. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Jacqueline.
Faisal Zetou, président de la CAPEB des Yvelines, donc dans le 78. Bonjour Faisal.
Bonjour Jacqueline.
Et Emmanuel Mayette, directeur BTP du CFA d'Hermont. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour à tous les trois et bienvenue d'être parmi nous, d'être les invités en direct de l'économie en direct sur IDFM Radio.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Alors Jean-Luc Saussois, on va commencer par un tour d'horizon de la conjoncture économique et des priorités pour 2026. Quel regard avez-vous sur ces éléments?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Malheureusement, je vais pas être avec de bonnes nouvelles à nouveau. Mmh. Je vais me répéter, hein, ça fait des mois que cela dure, ça fait des émissions aussi que je vous dis ça.
Oui, c'est vrai.
Mais ça, rien ne change. On est toujours dans une conjoncture très compliquée, avec un recul de notre activité depuis plus de 2 ans, avec des pertes d'emplois sur le territoire national, c'est plus de 40 000 emplois qui ont été supprimés depuis 2 ans. Donc, c'est catastrophique. Et malheureusement, toujours un cadre législatif et réglementaire qui ne se stabilise pas et qui ne va pas dans notre sens. C'est ça qui est dramatique.
Qui est inquiétant.
C'est que on a beau que ça soit comme d'habitude, hein, au niveau national, régional, départemental, on a beau faire des actions, on a beau essayer de diffuser nos messages, qu'on soit écouté, ça ne va pas dans le bon sens. On a 2-3 bonnes nouvelles où on a été entendu, mais dans l'ensemble, ça ne va pas dans notre sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, hier, il y avait une grosse manifestation nationale, enfin sur différentes préfectures, quasiment tout le territoire, parce qu'il y en a marre, tout simplement, il y en a marre.
Ouais, c'est ce que dit votre président national, Jean-Christophe Repond. Bon,
notre dicton aujourd'hui, c'est vos décisions, donc vos décisions politiques ne sont pas des cadeaux, hein, on est en période de Noël, et il y en a marre, et on mérite beaucoup mieux. Voilà, c'est pas mieux, on mérite beaucoup mieux.
Ouais.
Nous sommes des forces actives locales, nous avons un tissu national, on doit être écouté, c'est de l'emploi direct, c'est de l'emploi qui n'est pas délocalisé. On doit être écouté, on doit être entendu, et il doit y avoir des décisions qui sont fortes pour notre secteur et pour nos entreprises de moins de 10 salariés, grosso modo.
Oui, vos artisans. Oui, parce que donc vous avez raison de dire que la France traverse toujours une période compliquée, hein, depuis plusieurs mois, alors que votre secteur est porteur d'emplois et au-delà de cette instabilité, il est confronté à des mutations profondes, ce qui, je pense, n'arrange pas la situation.
Mutation profonde, mais on avait des balles à saisir, des balles au bon à saisir. On n'arrive pas à les saisir parce que nous ne sommes pas aidés. Sur la rénovation énergétique, on pouvait faire beaucoup mieux avec nous, en nous écoutant. On a voulu massifier à fond, c'est-à-dire que reproduire des rénovations globales de grande ampleur à répétition. On l'avait dit, c'était pas forcément la bonne solution. Et ça s'est avéré, puisqu'aujourd'hui, sur 2025, ma prime rénov' a été grosso modo perçue négativement. C'est-à-dire que quand vous faites des stops en cours d'année, quand vous dites que l'ANA ne va pas payer, quand vous dites qu'on va reprendre, que finalement on va recouper le budget, comment le client, puisque c'est le client quand même qui investit, comment le client peut avoir une image positive de ce dispositif? On gâche des vecteurs de communication qui sont essentiels. On annonce du négatif alors qu'on doit construire, alors qu'on doit rénover et qu'on doit aider, parce que malheureusement on le sait bien, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces rénovations énergétiques. Donc il faut les aider, ces gens-là. Eh bien non, on donne des mauvais signaux. Et ça, c'est pas bon, et c'est pas bon pour le secteur. Et la preuve est, on perd des entreprises, on perd de l'emploi, on perd du chiffre d'affaires. Donc ça va pas dans le bon sens, vraiment pas. Donc aujourd'hui, on travaille pour avoir un cadre législatif qui se stabilise, avec des règles qui vont vers nous, c'est-à-dire qu'on est toujours sur le même sujet, rénovation globale éventuellement, sur 2 ou 3 ans, geste par geste, de manière à pouvoir donner accès à ces marchés à des gens qui ont des moyens,
d'agir.
Des moyens faibles, voire très faibles. Voilà. Et c'est là que l'aide publique a son sens. Vraiment là.
Oui, oui, parce que en vous écoutant, je me disais que ce qui complique encore peut-être les choses, c'est que déjà ces dispositifs à la base sont un petit peu des usines à gaz, hein, faut le reconnaître.
Carrément. Et c'est de pire en pire.
Mais c'est de pire en pire.
C'est ça qui est incroyable. C'est de pire en pire. En plus, je vous dis, les signaux négatifs, c'est-à-dire que là, je vais être un peu technique, mais on veut supprimer aujourd'hui de la rénovation énergétique l'isolation des murs par l'intérieur.
Ah oui.
Bon, alors. Ça peut partir, effectivement, une nouvelle fois, peut-être que quelqu'un dans un cabinet a décidé que c'était mieux d'isoler par l'extérieur. Parfait, j'entends, on va supprimer les ponts thermiques, on fait un peu de technique, on va supprimer les ponts thermiques. Mais quand on est dans une situation des architectes des bâtiments de France, l'ITE, elle est quasiment impossible à faire, ou alors à un prix mais qui est exorbitant, que personne ne fera. Donc forcément là, par exemple, il y a des choses qu'il faut entendre. Sur certains immeubles haussmanniens à Paris, etc. Comment voulez-vous faire une isolation thermique par l'extérieur? Mais faut être raisonnable. Une fois de plus, et je pense que c'est dans tous les métiers, il faut du bon sens. Et pour avoir du bon sens, il faut écouter le terrain. Parce que nous avons des avis qui sont quand même de gens qui travaillent dans le domaine. On a un petit regard quand même. Bon, je pense qu'on a quand même expérience. Mais, une nouvelle fois, on nous écarte un peu, c'est-à-dire qu'on peut peut-être nous écouter, mais on nous entend pas, et on va aller là-dessus, supprimer l'isolation thermique par l'intérieur. Mais c'est une sottise. Je veux pas dire de gros mots, c'est raison. Une sottise. Voilà. C'est un exemple, un seul.
J'entends, et votre exemple est vraiment...
Je pense qu'il est parlant.
Très, très parlant. Le problème, je pense que vous n'êtes pas les seuls dans le BTP à avoir ce message, c'est de dire que quand de telles décisions sont prises, on ne vous consulte pas.
Alors on nous consulte quand même, mais c'est pas pour ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. On peut nous écouter, mais on nous entend pas forcément. C'est ça le problème. Et finalement, on a une déception énorme derrière, puisque on se dit que, grosso modo, on fait ça un peu pour rien, on fait du vent, quoi. Et c'est vrai aussi pour nos adhérents, parce qu'on est là pour les défendre. Et parfois, c'est vrai que il peut y avoir du terrain. Et d'ailleurs, il y a un fort mécontentement là, parce qu'on peut être aussi nous aussi un peu mis en cause en disant vous faites pas grand chose. Si on fait beaucoup,
on fait beaucoup,
mais malheureusement, ça ne porte pas forcément ses fruits. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'action d'hier d'avant-hier, du 17, était importante, parce que on a besoin de montrer ce mécontentement sur tous les territoires. Et c'est vraiment un ressenti de terrain. Voilà.
Ouais. Alors justement, Jean-Luc, parce que je vous sais très investi au niveau de la CAPEB, au-delà de votre profession, puisque vous avez une entreprise aussi.
Oui.
Est-ce qu'on peut, pour nos auditrices et auditeurs, nous rappeler les missions de la CAPEB? Je trouve que c'est important.
Alors, la CAPEB, donc Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment, nous sommes donc majoritaires de par notre peser sur les moins de 10 salariés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a droit de veto sur les moins de 10, donc sur la convention collective du bâtiment des moins de 10. Donc ce qu'on défend les petites entreprises par nos services, c'est-à-dire que quelqu'un qui est adhérent va nous appeler. On a un service juridique d'ailleurs que l'on vient de renforcer, puisque on estime qu'on avait peut-être encore un peu plus à donner à nos adhérents et aux entreprises du bâtiment. Donc aujourd'hui on a 2 personnes sur le service juridique, donc ça c'est vraiment notre porte d'entrée, parce que ce sont des sujets, vous savez, l'artisan du bâtiment bâtiment, il est le nez dans le guidon. Mm-hmm. Et donc, quand il a un problème, que ça soit un problème de paiement, un problème, un litige, etc., il va se tourner vers nous, mm-hmm. et c'est nous qui allons l'aider. Donc, c'est ce service juridique qui est vraiment important. Il est très apprécié, très pertinent, et donc ça c'est très bien. On fait évidemment de l'aide à la formation, c'est-à-dire que les artisans qui veulent, ou les TPE qui veulent se former ou former leurs salariés, se tournent vers notre service formation, qui montre les dossiers, qui propose des formations, et voilà, que ça soit sur nos quatre antennes, hein, je vous rappelle, hein,
bien sûr.
Saint-Olomone, mmh. Arpajon, Bois d'Arcy et Croissy-Beaubourg, inaugurés il y a un an, un peu plus d'un an. Voilà, on fait des formations partout, dans tous les domaines, que ça soit en maintenance, que ça soit en formation initiale, que ça soit comment dire, en formation réparation ou autre. Et d'ailleurs, on va peut-être développer aussi une nouvelle formation qui s'appelle Calipluie, donc valider, labelliser les gens qui sont capables, parce que c'est un sujet la gestion de l'eau. Hein.
Ah oui. Donc oui, on en parle beaucoup.
On a un service économique que l'on va renforcer, où on va essayer de tourner un peu plus les artisans vers les petits marchés publics, parce que c'est important aussi. Des fois, on a un peu peur d'y aller, mais pourtant il y a vraiment des marchés à aller chercher. Aussi sur le GME, comme vous le savez, le groupement momentané d'entreprise, on a créé l'application GME 3 clics, on pourra en reparler éventuellement. Évidemment un service aux adhérents, c'est-à-dire que pour n'importe quoi, des fois une petite broutille, ou ce service est là pour aider,
pour répondre,
pour répondre, voilà. Donc
un service, enfin je veux dire une fédération qui est quand même une confédération
et j'y tiens fortement,
qui est efficace et comment, à disposition
ouais. Et depuis que j'ai pris la présidence, et avec Faisal qui est à mes côtés au comité directeur, notre souci c'est vraiment de satisfaire nos adhérents.
Oui, c'est ça.
Voilà. On est là pour ça, on est là pour les défendre. Alors, c'est les défendre effectivement tous les jours par nos aides, mais c'est aussi les défendre en lobbying. Avec toutes les rencontres que l'on fait avec les représentants de l'État, avec les élus de la République, que ça soit députés, sénateurs ou autres, conseil départemental, et éventuellement intercommunalité aujourd'hui, parce que c'est les com-com, c'est quand même très important, c'est un sujet et ils ont beaucoup de délégations qui peuvent nous intéresser. Donc vraiment, on va un peu partout et on est là, on est présent, et comme vous le dites, je pense que ça se voit.
Merci Jean-Luc. Je m'adresse à vous, Faisal. Donc vous êtes président pour le 78. Vous êtes président depuis quand, Faisal?
Deuxième mandat.
Oui, d'accord.
Donc les mandats, c'est trois ans.
D'accord. Ouais, tout à fait. Vous pouvez faire jusqu'à combien de mandats?
Trois.
Et donc vous partagez la vision de Jean-Luc ce soir.
Oui, tout à fait. C'est vrai que, mais après, chaque département a aussi ses artisans et ses spécificités, mais dans l'ensemble, ça se regroupe. Hein. C'est les mêmes combats, les mêmes problématiques. Donc c'est vrai que nous dans le 78 aussi on rencontre les mêmes difficultés, ne serait-ce qu'au niveau des artisans avec les problèmes de MaPrimeRénov, en l'occurrence, ce qui est vraiment un sujet fort, parce que les clients ne comprennent plus les dispositifs, donc alors l'artisan encore moins.
Comme disait Jean-Luc, comme ils ont la tête dans le guidon, si en plus il faut qu'ils réfléchissent à comment il faut agir,
Ils nous demandent d'être qualifiés, donc faut prendre du temps pour se former. Le temps pour se former, c'est le temps qu'on n'est pas sur les chantiers à avancer. Donc ils font déjà cette démarche qui est déjà assez conséquente, et après c'est vrai que se mettre à jour des différents dispositifs, qui en plus sont sans cesse en renouvellement tous les deux ans en moyenne.
Oui, c'est ça. Il y a eu énormément de va-et-vient.
Si ce n'est pas tous les ans, parce que chaque année on a un changement. Donc là, vous voyez la dernière MaPrimeRénov où ils ont rajouté un MAR. Ça date de donc janvier 2024. Moi, qui fais beaucoup de rénovation énergétique, personnellement, j'ai pas fait un dossier.
Ah oui.
Avec un dossier MAR, parce que déjà, premièrement, ils n'avaient pas formé assez de MAR.
Qu'est-ce que vous appelez dossier MAR?
MAR, c'est mon accompagnateur Rénov.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire que maintenant, pour pouvoir monter un dossier, vous devez passer par une personne qui vous aide à monter le dossier, qui valide les devis, qui vérifie que l'entreprise soit bien qualifiée, oui, labellisée, que les travaux que le client demande, bah ils font un peu un tour, le tour de, du bâtiment pour voir quelles sont les priorités en premier. Chose que nous, en tant qu'éco-artisans à la CAPEB, on a été formés.
Vous êtes capable
pour,
de le faire.
Bah oui, on a été formés pour dire voilà prioritairement les clients, vous, il faudrait faire ci, faire ça. Après, le client lui-même, c'est lui qui décide de toute façon à la fin. Donc, s'il veut faire que les fenêtres en premier, il fera les fenêtres.
Oui, Jean-Luc, tu voulais ajouter.
Oui, sur le MAR, alors effectivement, une fois de plus, une nouvelle étape. Le MAR, c'est pour le particulier, hein, c'est pas pour l'entreprise. Hein, c'est une aide pour le particulier. Par contre, effectivement, une nouvelle fois, quand on met quelqu'un dans la boucle, cette personne-là peut avoir éventuellement une tendance à placer ses copains. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais là encore pour nous un sujet, pour nous un combat et pour nous défendre les artisans. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que le MAR décide de qui doit faire le chantier. Voilà. Il faut que cette personne-là soit intègre. Et les gens intègres, il y en a de moins en moins. Donc, il faut que ces gens-là soient intègres et qu'ils soient encadrés, qu'ils soient contrôlés. Voilà. Donc là encore, la CAPEB agit en département pour que ces MAR fassent leur boulot correctement, sans avoir tendance à placer les copains pour
de
faire les travaux.
D'autres. Alors, c'est amusant ce que vous me dites. Parce
je
ne
sais pas si c'est amusant, mais nous, ça nous amuse pas.
Non, non, moi, je dis c'est amusant, c'est me concernant. C'est que quand vous avez parlé du MAR, moi, je me suis dit, c'est bien, ça va faire... Parce qu'il y a tellement d'arnaques avec cette prime rénov, je me suis dit, ça va comment justifier de la bonne... De la bonne démarche.
Je pense qu'à l'origine,
mais là aussi, c'est encore perverti, quoi.
Voilà. À l'origine, ça devait être fait pour ça. Ouais. Après, comme je vous dis, moi, j'ai pas fait un dossier en 2024. Donc, il y avait eu deux choses. Comme je vous dis, il y avait pas assez de personnes formées. Après, le temps que les dossiers soient montés, ça a pris un certain temps. Donc, en fait, vous arrivez à la fin de l'année, l'État a sorti zéro crédit d'impôt. Donc
en
la question, elle est est-ce
en plus,
que
c'est que ça prouve comment que le dispositif n'a pas fonctionné.
Tout à fait. Ouais. Donc est-ce que c'était volontaire que l'État ne sorte pas pendant un an crédit d'impôt bon, voilà, on peut se poser la question en tout cas. Moi, sachez que, vous voyez, en tant que professionnel, j'ai pas fait un dossier. Ah, moi, j'ai des clients qui ont voulu faire des dossiers. Au final, on est passé outre. Ils ont fait directement sans passer par les aides.
Et au niveau de la CAPEB, est-ce que vous avez justement une vue d'ensemble des primes rénov qui ont été utilisées? Quand vous dites, celle que vous avez pas fait un dossier, mais est-ce qu'il y a d'autres artisans qui ont fait des dossiers?
Alors, au niveau national, il faut savoir que c'est pour ça que l'ANA était en surchauffe. Le premier stop, c'est-à-dire que ils ont voulu valoriser les rénovations d'ampleur. Donc forcément, c'est des rénovations qui chiffrent à 50, 60, 80 000 euros, voire un peu plus. Donc tout de suite, les budgets ont été demandés
explosé.
En conséquence. Alors par des sociétés bien souvent qui sont là pour faire du commerce et rien d'autre, pas pour faire de la qualité. Donc ils veulent faire du chiffre d'affaires. Donc tout a explosé. Du coup, l'ANA s'est affolé en se disant on a mangé 80% du budget annuel. Donc on stoppe, on revoit un peu la voilure, etc. C'est pour ça que nous on a œuvré à ce moment-là avec l'ANA au niveau national avec Jean-Christophe Repon de manière à ce que ça puisse redémarrer au plus tôt, mais en revoyant toutes ces rénovations globales, parce que la plupart des arnaques, elles sont sur rénovation globale. Les gens qui vous appellent et qui vous démarchent en vous disant on va vous faire ça, ou qui font du porte-à-porte, et je le répète, on en reparlera tout à l'heure, le porte-à-porte commercial sur la rénovation énergétique est interdite dans le Val-d'Oise, source de la préfecture. Donc, il faut bien le savoir, ces gens-là sont pas des gens qui viennent là pour votre...
Oui, pour nous, pour eux.
Pour nous faire du bien, ils sont là surtout pour faire
du chiffre
d'affaires. Du chiffre d'affaires, et ils n'ont que faire de ce qui se passe derrière, et que faire de la pertinence et de la qualité des travaux. C'est ça le problème. Une nouvelle fois, et on n'a toujours pas compris, parce que quand il y a eu l'isolation à 1 euro, ça a été exactement la même chose. Mais une nouvelle fois, on reproduit, parce qu'on n'écoute pas le terrain, on n'écoute pas le bon sens, on n'écoute pas les gens qui pratiquent.
C'est à hurler.
C'est usant, et on se dit, mais c'est quand est-ce qu'on va avoir un peu d'écoute du terrain?
Non, mais il y a aussi le fait qu'ils aient, il y a aussi le fait qu'ils aient changé aussi les barèmes. C'est quand je dis les barèmes, c'est-à-dire que moi, je faisais beaucoup de travaux énergétiques sur les foyers, entre guillemets, modestes, moyens. Aujourd'hui, tous ces clients-là, ils n'ont plus le droit. C'est eux qui avaient le pouvoir d'achat. Donc ils ont mis les primes, les aides sur ceux qui n'avaient pas de moyens. Et ils vous demandent de faire une rénovation globale. Ils ont déjà pas assez pour faire des fenêtres ou pour faire une façade. On leur demande de faire le toit, la chaudière ou la pompe à chaleur et les fenêtres. Eh ben, ils vont sortir où
les
sous ?
On est dans le paradoxe.
Vous voyez, c'est tout son contraste, ce que disait Jean-Luc tout à l'heure. On leur donne des éléments, on leur donne des billes et ils ne les suivent pas. Donc après, il ne faut pas s'étonner que ça fasse un flop et que ça ne fonctionne pas.
Ah, ça n'a pas fait un flop pour tout le monde, c'est ça le problème. C'est que ça a fait un flop pour les grosses sociétés qui sont capables d'avoir 20 ou 30 commerciaux au téléphone, qui démarchent à longueur de journée, qui appellent les gens, qui les harcèlent, parce que c'est vraiment ça, c'est presque du harcèlement. Et ces gens-là, eux, prennent les marchés et surtout les aides. C'est pas nous, petits artisans, qui prenons ces aides-là. La preuve, Faisal vous le dit, il a fait zéro en 2025, alors qu'il en faisait avant. Il est pas là le drame.
Ah oui, je comprends.
Voilà. Une fois plus, on fait bosser des gros, des multinationales. Vous savez, quand l'ANA a signé une convention avec Leroy Merlin, moi, excusez-moi, mais ça m'a dégoûté.
Ah oui, oui.
Je ne crois pas que Leroy Merlin soit un bienfaiseur. Je ne crois pas que Leroy Merlin fasse travailler des artisans avec le respect de leurs compétences et de leur métier. Hein, on les a trop vus faire avec les cuisines équipées, avec de l'installation à 1€. Moi, je suis désolé, le gars qui est payé à 350 balles pour poser une cuisine équipée où il va travailler 3 jours. Moi, j'appelle ça de l'esclavage. Voilà. Ou l'ubérisation.
Et l'ANA
encourage l'ubérisation. Mais on marche sur la tête une nouvelle fois. On marche sur la tête.
Il y a de quoi être en colère. Juste, on va faire une pause, mais Emmanuel, quel regard vous avez vous, au travers les propos de Jean-Luc et Faisal? Vous êtes, vous, en tant que CFA, vous êtes touché par ces mesures?
Alors, déjà, je tiens à dire bonjour à tout le monde.
Bonjour, Emmanuel.
Merci, Jacqueline, pour l'invitation d'être avec vous ce matin, vendredi. Moi, le regard que j'ai, en fait, il est forcément différent. On n'a pas, en fait, même si on est dans le même secteur d'activité, quelque part le bâtiment. Moi, je vais être là pour former, en fait, les futurs, en fait, collaborateurs, en fait, des artisans d'aujourd'hui, de demain. Donc, nous, notre travail, il est d'apporter en fait les bons outils en fait aux apprentis et bien entendu aux entreprises, parce que c'est quelque chose, l'apprentissage, qui se fait en partenariat. Moi, je vais essayer ce matin de plutôt travailler sur les parcours d'excellence que peuvent apporter un CFA, parce que je pense que c'est vraiment important de mettre en lumière en fait toutes ces parcours d'excellence. Et bien sûr, je ne mets pas de côté la situation qui est forcément pour nous, qui nous impacte. Ce qu'on entend ici, en fait, là, tout de suite, forcément chez nous, en CFA, c'est forcément quelque chose qui nous impacte. Et puis, j'aurai plaisir de pouvoir présenter aussi ce que c'est que le BTP CFA Île-de-France. Je pense que c'est aussi important de le faire.
On va en parler, c'est prévu.
Super.
Merci, Emmanuel. On laisse un peu de place à la musique avec Julien Clerc, Cœur de Rocker, avant de reprendre ces échanges passionnants. À tout de suite.
Je n'étais encore qu'un enfant de cœur, que j'avais déjà un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école, je ne vivais que pour mes idoles. Yeah, yeah, yeah. Mon père voulait me retenir, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est tu vas faire mourir ta mère.
Cœur de rocker, cœur de rocker. fait craquer. La seule que j'ai vraiment aimée, c'est celle qui m'a quitté. J'ai été bien embêté. C'est vrai que j'étais pas très fidèle, mais j'étais totalement fou d'elle. J'ai voulu la retenir, tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est tu vas finir ta vie tout seul.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
L'économie en direct ce matin avec toujours à mes côtés sur IDFM Radio, Jean-Luc Saussois, président de la CAPEB Grande Couronne, chef d'entreprise. Faisal Zetou, président de la CAPEB des Yvelines, chef d'entreprise également. Et Emmanuel Mayette, directeur du BTP CFA de Hermont. Jean-Luc, quelques mots sur, on vient de parler du contexte économique et réglementaire. Qu'en est-il de l'impact du PLF et du PLFSS 2026 sur les artisans et TPE du BTP?
Alors, on va faire dans l'ordre PLFSS, donc projet de loi de finances sécurité sociale pour tout le monde.
Oui.
Vous savez que ça a été voté, c'était accepté par les députés en deuxième lecture. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, acté, grosso modo. Une déception, puisque il y a beaucoup de... La majeure partie de ce qu'on avait proposé n'a pas été retenu. On a proposé, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais entre 20 et 30 amendements, par évidemment avec un soutien politique, que ce soit... Une nouvelle fois, on est apolitique. Nous, on discute avec tout le monde et on a besoin juste d'avoir du soutien des élus de la République, donc quel qu'il soit. Malheureusement, pas forcément écouté à 100%. On a obtenu quelque chose qui est bon et je me félicite que BTP CFA Île-de-France soit là avec Monsieur Mayette pour Hermont. Juste, on a obtenu la non-annulation de l'allègement des charges sociales pour les apprentis.
D'accord.
Ce qui aurait pu être encore une mauvaise nouvelle pour les apprentis, parce que les apprentis ont un salaire qui peut être un peu léger. Donc si encore on leur avait pris dessus, ça aurait été, je pense, un mauvais signal au niveau. Et je pense qu'ils ne le méritaient pas. Donc je pense que BTP CFA pourra que se féliciter de ça. Ça, c'est une victoire CAPEB. On a obtenu aussi des victoires au niveau du salariat des femmes. C'est-à-dire qu'au niveau des retraites, par exemple, on a obtenu le fait que, en fonction du nombre d'enfants, l'âge de la retraite soit
diminué,
soit pris en compte au niveau des par naissance. Donc c'est un jeu d'année.
Oui.
Et puis aussi que
Que ça n'existait pas pour les artisanes.
Ah ben c'est
parce que ça existe dans
la négociation des retraites. Je vais pas vous cacher, c'est un sujet qui est compliqué.
Ouais, ouais.
Nous, on a toujours la CAPEB a toujours été constructif sur le sujet avec l'UDOP, parce que là, ouais, on va parler d'Interpro. Hein, donc nous, je vous rappelle qu'on est composante de l'UDOP, Union des professionnels de proximité. Donc c'est un sujet Interpro, mais notre sujet, on était tous d'accord là-dessus au niveau des petits, des gens qui ont travaillé toute leur vie. Il y a pas de raison qu'on prenne pas en compte la période d'assurance, on va dire naissance. Tout simplement. Voilà. Donc il faut que ça soit pris dans l'âge de retraite, c'est-à-dire que pouvoir reculer l'âge de retraite en fonction de ça, et aussi que le calcul de salaire ne soit pas basé sur ces années-là, puisque c'est en assurance, donc c'est moins, mais qu'il soit bien pris sur les années de salaire plein. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Donc
bien sûr.
On réduit la période de
possible.
Bah évidemment,
enfin
je veux dire un couple a envie d'un enfant, je vois pas pourquoi l'épouse en partirait dans sa retraite. C'est une nouvelle fois du bon sens. Voilà. Et d'égalité, on parle d'égalité. On a beaucoup de femmes dans nos entreprises, il n'y a pas de raison que les mères de famille soient lésées au droit à retraite.
Voilà. Oui, c'est vrai
que on a obtenu. C'était encore un sujet CAPEB et UDP. On a obtenu ça.
Depuis que vous êtes partenaire d'IDFM, et d'ailleurs je vous remercie au passage de ce soutien. J'ai appris que voilà, la CAPEB était très active au niveau des femmes.
Voilà, et on sera d'autant plus actif que, comme vous le savez, le statut de conjoint collaborateur va perdre cette protection à partir du 1er janvier 2027. Donc là, prochainement, il faut qu'on aille au charbon sur ce sujet, puisque ce statut qui protégeait les femmes d'artisans risque de disparaître.
Oui.
Je pense que là, honnêtement, c'est transpartisan, il doit y avoir un accord là-dessus qui doit être trouvé très facilement. Enfin, j'ose espérer,
ce serait
une catastrophe. Ouais. Et franchement, on ferait un pas en arrière, on retournerait dans les années 50, quoi. Je pense qu'on n'en est pas là.
Non, j'espère.
Enfin, les années 50, d'un autre siècle.
Je l'espère.
Rappelons-le.
Je l'espère. Merci Jean-Luc pour ça.
J'ai pas fini. Excusez-moi,
oui,
j'ai fini. Et donc sur le PLF, donc projet de loi de finances, là, justement, c'est pour ça qu'il y a eu cette action le 17. C'est-à-dire que on a vraiment un sujet, c'est la fiscalité. Je parle de TVA pour les micro-entreprises et pour les autres entrepreneurs. C'est-à-dire que on parle pas du régime fiscal. On parle juste qu'aujourd'hui, et là, on a la même position avec la FFB, pour que ça soit clair et pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale, nous, on propose tout simplement la TVA dès le premier euro facturé.
Ah oui.
C'est simple, c'est pour tout le monde la même chose. Qu'on ne vienne pas nous dire à nous qu'on est de mauvaise foi, qu'on profite de la situation, c'est faux. Si la TVA est pour tous, tout le monde est sur le... Ou alors on la supprime pour tout le monde.
Oui.
Je pense pas que l'État soit d'accord.
Non, je crois pas.
Bon,
non, puisqu'ils sont plutôt prêts à l'augmenter.
Voilà, donc la TVA pour tous, dès le premier euro, que ça soit 5, 10, 20, peu importe, dès le premier euro. Et en plus de ça, ça fait du cash pour l'État.
Bien sûr.
Donc,
tout le monde est gagnant.
On amène quelque chose qui est constructif. Je vais faire une caricature. Je suis désolé, je vais pas chez le boulanger avec mon sac de farine sur le dos, j'ai déjà dû vous la raconter, en disant au boulanger, tu vas me faire mon pain, par contre, tu me fais la TVA juste sur la main d'œuvre, mais pas sur les matériaux. Parce que c'est un peu ce qui se passe chez les auto-entrepreneurs. Changer une porte de garage, monsieur, achetez la porte de garage, et puis je vous facture la TVA.
Ouais, c'est compliqué, hein, votre métier, finalement. On comprend qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Vous êtes dans la même logique, hein, que Jean-Luc Sossois sur ce problème du PLF. Est-ce que ça vous rencontrez des exemples similaires?
Après, c'est sur la concurrence quand on fait des devis sur des par exemple les rénovations de salles de bain, comme disait sur la clôture, sur un peu des petites maçonneries, pas sur des gros travaux, parce que c'est vrai que ça demande d'avoir une garantie décennale,
oui,
chose que nous avons et que non pas forcément. Donc sur les petits travaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, on va dire déloyale, où c'est, comme disait Jean-Luc, c'est le client qui achète la marchandise, le carrelage, les sanitaires, et puis l'auto-entrepreneur, il vient et il fait la pause, tout simplement.
Ouais.
Donc c'est un peu ce que, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, en reparlant de Leroy Merlin, ce que propose Leroy Merlin. Aujourd'hui, ils vous vendent du RGE, et puis ils prennent des auto-entrepreneurs qui viennent faire la pause.
Ouais.
Finalement, la personne n'est pas forcément qualifiée, ou n'a pas la certification comme nous pouvons l'avoir, parce qu'il faut savoir qu'elle a un coût. cette qualification. Bien sûr. Et plus vous avez de corps de métier, plus vous payez. Donc ça aussi, il faut le dire. Et en plus, nous avons des audits, nous avons des questionnaires annuels à remplir. Oui, donc il y a une démarche quand même administrative qui est non négligeable. Donc en fait, voilà, c'est qu'ils échappent à tout ça. Et nous, c'est pas normal qu'on soit pas dans le même pied d'égalité. Oui. On les empêche pas de travailler.
Que vous soyez contraints.
On leur dit juste que tout le monde soit aligné.
Non, mais vous avez raison.
Excusez-moi. Pardon. Jean-Luc. Le PLF, j'ajoute que évidemment le sujet c'est MaPrimeRénov. Hein.
Oui. On est bien d'accord. C'est complètement le sujet.
On a œuvré le 17 pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut encore supprimer des aides. C'est-à-dire que on a laissé la fraude s'installer au début 2025 sur l'innovation d'ampleur, et aujourd'hui on dit on va en faire moins parce que ça coûte trop cher. Non, écoutez-nous, faisons autrement et maintenons un certain niveau d'aide. Les gens en ont besoin pour les passoires thermiques, les gens en ont besoin, et évidemment les métiers du bâtiment en ont besoin aussi pour les soutenir. C'est pas aujourd'hui avec la construction neuve que le bâtiment va aller. On est encore très loin. On ne construit pas assez de logements neufs.
Malgré le plan qui a été lancé il y a 5 ans.
Moins de logements neufs, c'est moins de logements sur le marché. Donc ce sont forcément des loyers qui augmentent. Donc ça veut dire moins d'accessibilité pour les gens qui ont peu de moyens. Donc je vois bien que certaines personnes politiques disent il faut relancer le logement, vraiment, de manière à ce qu'il y ait plus d'offres, qu'il y ait moins, les loyers soient moins élevés. Et ça, tout ça, ça va être bénéfique pour tous.
Bien sûr.
Parce que l'accès à la location, c'est moins de gens dans la rue.
Ce sera un cycle vertueux, alors qu'actuellement,
l'ancien ministre Gasparian est d'ailleurs très clair sur le sujet. Je pense qu'il a des propositions qui sont très proches de celles de la CAPEB. Et vivement qu'on l'écoute.
Ah oui, d'accord. Merci Jean-Luc. Emmanuel Mayette, juste pour rester dans ce sujet, est-ce que quand vous formez vos apprentis, il y a une partie comme ça administrative, est-ce que il y a cet aspect qui leur est inculqué ou pas du tout, ou vous restez dans la partie uniquement pratique?
À ce jour, en tout cas, en ce qui me concerne, donc BTP, c'est FA Île-de-France, juste pour donner un topo, parce que je pense que c'est aussi intéressant de resituer le contexte.
Bien sûr.
Moi, je suis bien entendu du site d'Hermont, mais BTP, c'est FA Île-de-France, c'est 7 CFA, un organisme gestionnaire, plus de 3000 apprentis formés en Île-de-France dans les métiers du bâtiment. On part du CAP et on va jusqu'au Bac plus 3. Dans un certain nombre de métiers, donc là je vais redescendre effectivement sur un focus sur le CFA dans lequel je suis, donc sur Hermont 95. Nous aujourd'hui, les métiers en fait qu'on proposait, vers lesquels on forme les apprentis, sont des métiers en fait d'employabilité, je dirais, immédiate. On peut faire un CAP maçon, on peut donc travailler dans le gros œuvre, dans la finition, dans l'électricité, dans la métallerie, dans les fluides, donc des métiers en fait où il y a des besoins en recrutement actuels et futurs, parce qu'il faut aussi former le futur, ceux qui vont partir à la retraite. Et donc l'idée, l'une des grandes idées, c'est de pouvoir permettre à chacun de trouver sa place et de se construire un avenir solide par les métiers du bâtiment. C'est un peu ça la grande ligne directive, je dirais, qu'on pourrait dessiner aujourd'hui ou donner en fait ce matin. Quant à votre question, si on forme les apprentis en fait sur ces problèmes, je dirais, ou ces discussions politiques, nous aujourd'hui, les apprentis, en fait, notre premier travail, c'est de pouvoir, pour certains, en fait, leur redonner des bases, ne serait-ce que sur un savoir-être, un savoir-faire, et il y a déjà beaucoup à faire. Donc notre premier travail, il est sur ce sujet-là, puisque nous, sur les niveaux d'entrée, donc post-3e CAP, on a un vrai travail en fait sur ces deux grandes directions. Et puis après, au fur et à mesure des études, on peut rentrer sur ces thématiques-là en fait que nous abordons, mais pas sur les métiers d'entrée en fait. Ça peut être quelque chose qui peut être sollicité sur les conducteurs de travaux et autres, sur des avec un peu plus d'années, en fait, je dirais, sur l'apprentissage.
Très bien. Quand je vois les difficultés qu'il y a à justement gérer tous ces problèmes, je me disais que c'était intéressant d'en parler.
Je disais juste
que ça l'était, intéressant.
Ce qu'il faut savoir de BTP-CFA, c'est que c'est un organisme paritaire où la CAPEB et la FFB, donc les deux OP du bâtiment, siègent et font en sorte que ça fonctionne pour que nous formions tous ensemble des apprentis du bâtiment. Et c'est important parce que, comme le disait Monsieur Mayette, il y a le savoir-être, le savoir-faire qui sont très appréciés.
Absolument.
Ça, c'est très très important pour nos entreprises artisanales. Mais ce sont aussi des jeunes peut-être qui vont fonder leur entreprise.
Oui, oui, c'est.
Il y a des jeunes qui sont.
Moi, je. On a fait
quelques cérémonies de remise de récompenses et aux lauréats, et vous avez des lauréats épanouis. Vous avez des gens. Moi, j'ai vu à Auxerre un jeune qui brandissait son trophée. Mais moi, j'ai dit, donnez-moi cette photo. Je lui ai demandé si c'était possible de l'avoir.
Ouais,
c'est une telle publicité, enthousiaste. Le voir épanoui, de le voir avec le sourire, et on voit des parcours qui sont surprenants avec des jeunes qu'on pourrait croiser dans la rue, on se dirait tiens il est un peu paumé, etc. Mais des jeunes au contraire qui ont trouvé leur voie, et l'essentiel, j'en ai formé quelques-uns, des apprentis, c'est comme partout. Le matin quand on va au boulot, il faut envie d'avoir d'y aller.
Oui.
Si on n'a pas envie d'y aller, il faut changer de voie et faire autre chose. C'est je veux dire, si on ne trouve pas de plaisir dans son travail, il faut trouver une autre voie.
Compte tenu du temps qu'on y passe.
Et je pense que beaucoup d'apprentis qui passent dans ces BTP-CFA, que je félicite, et je félicite les formateurs, les équipes, et aussi les entreprises qui prennent ces apprentis,
qui les reçoivent,
parce que c'est important aussi, il ne faut pas l'oublier. On crée franchement des gens qui vont vers de beaux métiers. Je vous l'ai déjà dit, il y a de très belles carrières à faire dans le bâtiment. Comme le disait Monsieur Mayette, en plus, il y a plusieurs formations, donc on peut monter en formation et en compétences. On sera en soutien, la Capable Concurrente sera en soutien de BTP-CFA Île-de-France pour les apprentis.
Oui, on a bien compris toute l'importance que vous avez dans les CFA pour bien former les apprentis. Je propose qu'on fasse une deuxième pause, cette fois en compagnie de Superbus, avec leur nouvelle version avec Oshi. On va écouter Lola. Restez à l'écoute, on se retrouve juste après.
Allô Lola, c'est encore moi. J'ai beaucoup pensé à toi, Lola.
Allô Lola, ne raccroche pas. Ne mets pas de hola Lola, hola.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Merci d'être à notre écoute jusqu'à 11h. Ce matin, nous parlons de travaux dans le BTP, de formation, de problèmes, de PLF, et enfin de beaucoup de sujets. Avec moi, Jean-Luc Sossois, président de la CAPEB Grande Couronne, chef d'entreprise, Faisal Zitou, président des Yvelines, CAPEB des Yvelines, et chef d'entreprise aussi, Emmanuel Mayette, directeur du BTP CFA Hermont. Alors Jean-Luc, il y a deux jours, vous aviez cette grosse réunion nationale, une mobilisation nationale de la CAPEB. Votre président national, vous avez repris ces mots, a dit une sensation de dire en a marre avec par rapport à MaPrimeRénov'. Et puis il y a aussi la REP. Qui est un vrai sujet dans le bâtiment.
Oui, ça faisait partie des trois sujets majeurs, parce qu'il y en a d'autres. Donc du 17, c'était évidemment la REP en complément de MaPrimeRénov' et du statut de micro-entreprise, enfin la TVA pour les travaux pour les micro-entrepreneurs. Oui, la REP c'est un sujet puisque malheureusement c'est quelque chose qui a été mis en place une nouvelle fois,
oui, sans consultation,
sans trop nous écouter, Et aujourd'hui, nous avons un maillage territorial qui n'est pas bon, c'est-à-dire que nous n'avons pas de déchetterie vraiment bien dispersée équitablement sur le territoire, que ça soit... Alors, en Île-de-France, c'est un peu moins vrai, mais sur tout le territoire national, c'est un véritable sujet. Vous doutez bien que le maillage en Haute-Savoie ou en Savoie ou en Creuse ou en Corrèze, c'est primordial.
Bien sûr.
Dès que vous devez franchir une rivière ou autre, ou un vallon ou une vallée ou autre, et que vous devez faire une heure de route pour aller à une déchetterie qui veut bien vous prendre vos déchets, c'est quand même pas terrible pour l'artisan du bâtiment. Et je dis une heure, peut-être que je me trompe, c'est peut-être plus.
Et encore, lorsque vous arrivez, si les bennes sont pleines, vous faites demi-tour.
Ah oui,
et
carrément.
Et oui, c'est ça le souci. Ah, oui.
Bon, donc on a cette REP a été mise en place avec ce qu'on appelle une écotaxe. Il a été considéré que l'artisan du bâtiment ou les entreprises du bâtiment étaient des pollueurs. Donc du coup, on achète des matériaux, on paye une taxe de par l'industriel, mais on peut payer aussi une taxe, quasiment sur tous les matériaux. Alors il y a la taxe d'emballage, mais il y a la taxe de pollueurs. Donc la taxe de...
C'est-à-dire, oui, vous payez deux fois, quoi.
Alors on paye une seule taxe, mais tout est compris dedans.
Oui.
Et le problème, c'est que nous avons des déchetteries. Donc, cette taxe devait nous permettre un accès à des déchetteries gratuites.
Ah oui.
Et sans inscription. Aujourd'hui, comme vient de le dire Faisal, nous avons des déchetteries qui sont parfois payantes, ce qui est totalement inadmissible. Le pire, c'est que vous avez des déchetteries publiques qui n'acceptent pas les pros.
Ah oui.
Donc, on paye... Mais on peut pas les décharger parce que ça fait trop de volume. C'est pas nous qui avons imposé. Pourquoi on nous rejette parce que les bennes sont pleines, parce qu'il n'y a pas assez de place et qu'il faut aller faire 20-30 km pour aller dans une autre déchetterie qui est plus grosse. Je veux dire, une fois de plus, on paye et on repaye derrière parce que malheureusement, soit on paye une deuxième fois pour décharger ou alors on paye pour faire des kilomètres du gasoil et du temps passé.
Et de la pollution.
Et quand vous faites cette preuve par A plus B, quand vous faites cette preuve par A plus B auprès des responsables du gouvernement, qu'est-ce qu'ils vous répondent?
Vous savez, c'est assez simple. Hein, vous avez une agence qui s'appelle Valobac qui a décidé du montant des écotaxes, dit on va augmenter l'écotaxe.
Ah oui, carrément.
Ouais. C'est tellement simple. C'est malheureusement malheur français. Alors que, il n'y a pas assez. On va plus taxer. On va mettre plus d'impôts. On cherche pas la solution à la base. On rajoute toujours de la taxe. Comment voulez-vous qu'on soit d'accord? Donc, il y en a marre. Comme dit Jean-Christophe, comme dit le réseau CAPEB national, il y en a marre de tout ça. On mérite mieux que ça. Et beaucoup mieux, je le répète.
On mérite de la considération,
on mérite d'être écouté, on mérite. Fallait nous mettre autour de la table avant et qu'on puisse négocier, qu'on nous écoute. Une fois plus, écoutez le terrain.
En tout cas, j'espère que cette mobilisation nationale du 17 portera ses fruits, puisque c'est une des manifestations devant les préfectures. Donc
alors que
vous vous entendez bien avec les préfets.
Exactement. Merci, Jacqueline. C'est exactement ce que sur la Grande Couronne, on n'a pas fait de manifestation comme il y en a eu autre part différente. Notre action a été de continuer à expliquer la situation en préfecture. On a été reçu dans chaque préfecture et on continue. Et le comité directeur ne voulait pas que l'on casse la dynamique que nous avions avec ces préfectures et des échanges qui sont assez riches.
Qui sont en soutien.
On soutient. Bon, en tous les cas, ils nous écoutent et ils nous entendent. Après, il faut que ça remonte tout plus haut, évidemment.
Bien sûr.
Mais il est important de ne pas casser un agenda de communication, d'échange, sous prétexte de manifestations qui peuvent des fois mal tourner. On va me dire peut-être qu'on n'est pas assez ferme, qu'on ne se fait pas assez entendre. Je peux vous dire, croyez-moi.
Vous avez raison.
On nous entend. Et je pense que parfois, la sagesse et les mots importants sont vraiment primordiaux.
Bien sûr. Non, mais je suis complètement d'accord.
Et on ne va pas casser une dynamique avec les préfectures que nous avons actuellement et qui est vraiment belle.
Parce que, donc, pour rebondir sur vos relations avec la préfecture, au niveau du Val d'Oise, vous avez signé une convention antifraude.
Tout à fait.
Je me souviens que vous nous en aviez parlé dans les précédentes émissions. Donc, une convention qui devrait changer la donne pour les artisans sérieux qui sont souvent victimes de concurrence déloyale.
Tout à fait.
Ça va se traduire comment?
Pour que tout le monde comprenne, il faut quand même se rendre compte du calendrier. C'est quelque chose qui a été mis en place le sujet a été mis sur la table fin année 2022.
Ah oui. Donc
vous voyez que là on travaille, on est vraiment en partenaire sur cette convention. Donc il y a évidemment l'État, il y a le conseil départemental, la CAPEB évidemment, il y a la FFB aussi, et on est là en fait pour travailler ensemble pour lutter contre les fraudes. C'est vraiment ça, c'est lutter contre les fraudes, et ça c'est important. Et on va être là pour le coup, on va être en réaction, c'est-à-dire on va travailler ensemble. Et j'oubliais la DDPP, mais ça c'est l'État, Direction départementale des protections des populations. C'est très important parce que c'est, on va dire, l'outil un peu de répression. Et ça, c'est très important parce que
la répression, c'est comme si on veut être efficace, il faut
c'est
la
comme
répression.
C'est comme la peur du gendarme sur la route. Enfin, pour ceux qui ont encore peur des gendarmes, mais c'est vraiment ça. La DDPP, elle est là pour dire, je suis là et je peux taper et je peux taper fort. On va travailler ensemble parce que la DDPP a besoin aussi d'avis techniques parfois sur des sujets. Nous, on a besoin de la DDPP parce que on fait éventuellement des signalements de travaux, on va dire, abusifs ou de travaux qui ne sont pas comme il faudrait. Enfin, surtout d'entreprises qui ne faudrait pas qui ne sont pas comme il faut. Et on a besoin de ça. On a besoin de, par exemple, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de démarchage en porte-à-porte pour la rénovation énergétique. Vous avez aujourd'hui des acteurs qui sont purement commerciaux, qui laissent des gens avec une utilisation de cartes. Alors, je vais pas vous tout expliquer, mais qui est inappropriée et trompeuse. Alors, vous avez une petite Marianne avec ministère de la Santé, etc. Ça n'a rien à voir avec la rénovation énergétique. C'est un véritable sujet. Et ces gens-là, on va tout faire pour les épingler parce que ce sont des trompeurs.
Oui, ce sont des escrocs.
Alors, moi, j'irai pas jusque-là parce que bon, j'ai fait une action. Je vais pas citer de trop forts mots. Mais ce sont des gens qui usent et qui trompent.
La crédulité de.
Voilà, et qui trompent le client et le consommateur. Et ça doit disparaître.
Bien sûr. Donc,
cette action, cette convention que nous avons signée pour le territoire du 95 est importante parce que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus réactifs.
Très bien. Merci Jean-Luc. Alors Faisal, vous aussi vous avez le soutien du préfet des Yvelines. Vous avez une action récemment avec la préfecture.
Tout à fait, avec la préfecture des Yvelines. Donc on a eu une réunion sur comment aider les entreprises en difficulté.
Oui.
Donc il y a eu plusieurs intervenants, donc il y a eu donc l'URSSAF, la Banque de France. Il y a eu aussi le tribunal de commerce, donc ils expliquaient vraiment quels étaient les points et les difficultés qu'ont rencontré les entreprises et à quel moment il fallait vraiment se manifester et pas attendre la dernière minute qui était malheureusement des fois trop tard.
C'était le cas, oui.
Voilà, qu'ils arrivaient, c'était un peu tard. Lorsque, par exemple, ils prenaient des exemples, lorsque le tribunal envoyait des convocations au chef d'entreprise, il y avait ça aussi, mais il y avait aussi, lorsqu'il les convoquait, par exemple, pour voir l'état de leur dossier, de leur suivi de l'entreprise, le chef d'entreprise ne se présentait pas.
Ne parce qu'il avait, pas. Ouais, parce il qu'il avait a peur. Et il se croit
mais
que
en fait, il ne faut il pas croit, qu'il ait oui. cette peur. En fait, il est convoqué, c'est pour trouver des solutions.
Oui, c'est ça. On appelle ça la chambre des préventions et ouais. qui est vraiment efficace et de bons conseils.
Tout
en plus,
fait,
ça reste confidentiel. Oui, je le plus, dis pour oui, nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Ils ne doivent pas hésiter à faire la démarche.
Ouais, complètement ouais. confidentiel. Et vraiment, cette démarche, il faut la faire parce que déjà, ça permet peut-être d'avoir un élan au niveau du chef d'entreprise et se dire bon bah je suis pas tout seul et peut-être que en ayant des conseils extérieurs ça va peut-être m'aider.
Oui, bien sûr.
Et ne pas mettre la clé sous la porte ou être en redressement judiciaire parce que c'est vrai qu'une entreprise, quel que soit le corps de métier, hein, là en l'occurrence la préfecture c'était pas que bâtiment, c'était vraiment général. Mais c'est vrai que nous dans notre secteur, par exemple lorsque vous êtes en redressement, bah le problème c'est que tous les fournisseurs vous bloquent les accès, vous bloquent
et
les comptes.
Oui,
donc
oui,
c'est-à-dire que là, on va arriver, faut payer du comptant.
Il faut payer au cul du camion, comme
voilà,
on
exactement,
dit.
Exactement, comme on dit chez nous dans le bâtiment. Et malheureusement, des fois, quand vous n'avez pas la trésorerie tout de suite parce qu'il faut faire le chantier pour pouvoir être payé ou demander des acomptes, là, c'est là que les difficultés s'accumulent.
Ça devient un cercle vicieux.
Et c'est ouais. ça, c'est le chat qui se mord la queue. Et c'est vrai que cette réunion a été vraiment très, très intéressante.
Ah oui,
il y avait France Travail, il y avait différents, il y avait tous les acteurs, il y en avait beaucoup. Bon, c'est vrai que des fois on se disait il y avait beaucoup d'informations, donc
est-ce
que ça tue pas l'information, mais quand même.
Oui, mais en attendant, chacun a dû puiser l'information qui l'intéressait pouvoir réagir en conséquence. Mm-hmm. Merci Faisal. Oui, Jean-Luc.
J'ai juste ajouté, effectivement, il y a énormément d'aide et d'accompagnement pour les entreprises en difficulté. Donc, c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut retenir. Comme l'a dit Faisal, ce qui est important, c'est pas attendre la dernière minute parce que c'est souvent trop tard. Donc, l'accompagnement peut se faire avant. Il faut qu'on aime quand même qu'on accepte certains messages, nous entrepreneurs. La DDFIP, donc les impôts, effectivement, on les aime pas, mais ce sont des gens aussi qui peuvent nous accorder des échéanciers, donc un accompagnement pour régler la dette.
L'URSSAF aussi, je crois qu'il faut pas
vous
hésiter.
Dire, l'URSSAF, évidemment.
On peut faire un étalonnage.
Vous avez aussi le médiateur de crédit. C'est-à-dire que quand vous avez des crédits sur le dos, le médiateur est là aussi pour vous aider. Bon, bref, il y a énormément d'aides qui sont possibles. Quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'il est en difficulté, c'est un échec. Et c'est un échec personnel, bien souvent. On le prend pour soi. Il ne faut pas que l'artisan, je vais être en interpro puisque c'est l'interpro, il ne faut pas que le commerçant qui soit dans l'échec, il ne faut pas que cette personne-là se sente seule et reste seule. Et vraiment, aujourd'hui, il y a quand même une écoute qui est différente, où on vient aider les professionnels de manière à ce qu'ils puissent s'en sortir. Parce que malheureusement, une entreprise qui ferme, c'est l'emploi en moins. Donc l'État a compris ça quand même, il faut le reconnaître. Et donc l'État a décidé effectivement de soutenir même les entreprises qui sont en difficulté, à condition qu'évidemment ça soit viable. Mais le but c'est ça, et ne pas attendre la dernière minute. Quand on n'est pas bien, on va chez le docteur, on n'attend pas d'être à l'hôpital. Et bien c'est exactement ça. Je vais vous dire la même chose, quand on n'est pas bien en entreprise, on se tourne vers les accompagnements de ces services et on n'attend pas d'être en RJ ou trop tard en LJ, en liquidation judiciaire.
Mais vous avez raison de passer ce message parce que c'est très très important d'essayer d'anticiper, même si on sent que ça va mal, il faut pas attendre d'être.
Et c'est aussi parfois protéger le chef d'entreprise,
complètement,
parce que ça évite des saisies sur biens immobiliers ou bien un bien particulier. Donc faut faire, évidemment, je parle pas quand il y a faute de gestion ou de gérance, mais il faut se tourner vers ces aides.
Il faut pas s'en
détourner.
Voilà. Merci infiniment. Merci Jean-Luc et Faisal pour tous ces bons conseils. Je pense qu'on vous en aurez sûrement d'autres à nous donner. Avant de terminer l'émission, Jean-Luc, vous nous parlez de... Vous avez un besoin en recrutement. On en parlera si vous voulez bien.
Oui, tout à fait. On pourra parler de ça.
Voilà.
Merci.
Donc, une nouvelle pause. Et là, on va profiter de Guillaume Grand avec sa chanson « Toi et moi ». À tout de suite.
Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à m'en saler le corps. resterait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, à plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par les dunes, entre terre et mer, voler un peu de paix, des refrains à la mer. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi, je te raconterai ce rêve. Quand tu veux, on y va. C'est juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Ici on vit caché, ici on vit damné. Ici le temps se compte, on frustre nos hontes. Là-bas tu peux mentir, là-bas tu peux tricher. Là-bas on peut salir, là-bas on peut être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, c'est juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. On y va. C'est juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, on y va.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. C'est l'économie en direct et ce matin, nous poursuivons cette émission consacrée à la CAPEB et au CFA d'Hermont en compagnie de Jean-Luc Sossois, président CAPEB Grande Couronne, Faisal Zitou, président des CAPEB des Yvelines et Emmanuel Mayette, directeur BTP CFA Hermont. Alors Emmanuel, là je me tourne vraiment vers vous parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur ce CFA d'Hermont qui a une vraie réputation, hein, je crois, dans le Val d'Oise. Je vous laisse vous présenter déjà, Emmanuel, pour qu'on sache qui vous êtes.
Alors, je vais surtout présenter le CFA.
Oui, mais un petit peu vous d'abord.
Un tout petit peu. Moi, je suis arrivé il y a presque trois ans maintenant au sein du CFA d'Hermont. Donc CFA dans lequel en fait qui a été créé en 1983, donc effectivement c'est une institution, on pourrait dire, en fait sur la ville d'Hermont mais aussi dans le département du 95. Donc c'est un CFA qui au quotidien accueille plus de 600 personnes en fait, donc apprentis bien entendu, mais aussi les personnes qui les forment, qui les accueillent. On parlait tout à l'heure des savoir-être, des savoir-faire, mais pour que ça fonctionne, il faut du monde. Donc c'est un établissement de plus de 600 en fait personnes, un lieu de vie, un lieu de formation, où on va accueillir principalement en fait des jeunes qui sortent de troisième, qui sont pas toujours forcément en adéquation avec le système scolaire classique, qui cherchent un peu autre chose et qui cherchent en fait à développer de nouvelles compétences et à peut-être avoir une formation concrète, d'où le fait de choisir l'apprentissage. L'apprentissage dans les métiers du bâtiment, parce que nous, notre spécificité, comme on le disait tout à l'heure, ce sont les métiers du bâtiment. Donc, à Hermont, en fait, on va travailler sur tout ce qui va être fluide. Fluide, pour nous, c'est tout ce qui est installateur, sanitaire, plomberie, chauffage, technicien de maintenance, donc les électriciens, parcours électricité, une filière sur le gros œuvre, maçonnerie, métallerie, finition, la filière du bois. Travaux publics se fait notamment à Auxerre, que vous citiez tout à l'heure, Jean-Luc. Donc voilà, on a un panel en fait au sein de BTP CFA Île-de-France pour former en fait demain aux besoins des entreprises, parce que les entreprises vont avoir des besoins parce qu'il y a des personnes qui partent en retraite, qu'il va falloir remplacer.
Ah oui, il y a un flux, oui.
Exactement. Donc on est là, nous, pour former en fait ces futurs apprentis qui vont rejoindre les forces vives en fait du bâtiment. Concernant Hermont, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un CFA, en fait, avec une très belle équipe, en fait, comme on peut avoir partout dans nos CFA, mais qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mener des projets, en fait, qui sont très intéressants et d'ouverture. Mmh. On accueille des jeunes de troisième, mais on accueille aussi des adultes en reconversion. Vous disiez tout à l'heure, si j'aime pas mon métier, je le change. Eh bien, justement, je discutais.
Vous offrez cette possibilité.
Exactement. Et encore hier, une personne qui était dans le commerce de vêtements vient se reformer aujourd'hui pour apprendre les bases du métier de maçon et demain devenir maçon. Et certainement ouvrir son entreprise. Donc, on a des jeunes qui sont fabuleux et qui vont aujourd'hui entrer en CAP et puis après faire son bonhomme de chemin et ressortir avec un, voire plusieurs diplômes, parce que c'est aussi la possibilité offerte dans nos CFA et aussi à Hermont. Et puis après, demain, devenir les artisans et revenir chez nous, en fait, rembaucher des jeunes en apprentissage. Donc, il y a une forme de circularité.
Oui, on parlait de circuit vertueux, c'est tout à fait le cas.
Exactement. Ouais. Donc, on a de beaux talents, et comme vous le soulignez tout à l'heure, qu'on a pu voir notamment lors de la remise de diplôme qui s'est effectuée il y a quelques semaines, je parlerai de ce jeune, Aliane Galib, qui a eu un article dans Le Parisien, notamment, puisque c'est un jeune qui est arrivé sur le territoire français il y a quelques années, que nous on a accueilli il y a quelques années, on a senti en lui cette énergie en
il
fait.
Il venait de quel pays ?
Pakistan.
Pakistan, d'accord.
Une énergie dévorante en fait pour apprendre. Donc on l'a accompagné comme on le fait pour tous nos apprentis et on a vu en lui la volonté de vouloir aller sur le concours des meilleurs apprentis de France. C'est aussi des choses qu'on sait faire en CFA et qu'on fait régulièrement. Il y a la formation classique, il y a toutes les petites choses à côté, comme le concours des meilleurs apprentis de France où il a décroché une médaille d'or départementale, régionale. Il a décroché, après il a eu son CAP. Il a décroché en fait son CAP, ouais. Il est maintenant
c'est
chez nous en brevet professionnel.
Quelqu'un de doué.
Ouais, quelqu'un de doué, oui. Talentueux, une entreprise qui le suit derrière, en fait, travailleur, investi. Alors, je dirais qu'ils sont tous comme ça, nos apprentis,
oui.
Même si par moments, il faut peut-être les accompagner un peu plus que les autres. Mais je prends cet exemple, mais il y a beaucoup d'exemples dans nos CFA, en fait, de jeunes talentueux, en fait, et qui vont former, en fait, la richesse du bâtiment demain. Il faut leur faire confiance. De temps en temps, il faut prendre un peu plus de temps pour les accompagner, mais c'est important de prendre le temps. Et puis, il y a ce public de jeunes, moins jeunes. Notre plus jeune apprenti, l'année dernière, avait 60 ans. Donc, il avait envie de se reconvertir dans les métiers du bois. Donc, il est venu plutôt aller chercher un CAP dans les métiers du bois pour pouvoir apprendre, en fait, ce métier. Donc, tous les ans, nous avons nos apprentis qui sont et on accueille avec ces apprentis des parcours de vie en fait. Voilà, j'ai eu envie de changer. Je fais une reconversion en fait. Je pars dans les métiers de l'électricité. On a des classes dédiées sur la reconversion, que ça soit sur Hermont et encore une fois j'insiste au sein de BTP CFA Île-de-France, des formations aussi. On parlait RGE, on sait faire aussi ce type de formation et vous le savez. Je dirais aussi que les BTP CFA, c'est aussi apporter des projets comme les projets Erasmus. Donc nous,
oui.
On a des jeunes qui sont revenus.
D'accord. Ah oui,
y a je ne
savais pas que Erasmus c'était aussi dans ce domaine. Hein. Ouais.
Et si, exactement. Donc là, on a des jeunes qui sont revenus de Barcelone, d'autres vont partir en Pologne, d'autres ont été en Sicile. Donc, on essaie d'apporter en fait dans leur parcours en fait plusieurs choses.
C'est ça apporte une ouverture supplémentaire sur le monde. Oui.
L'ouverture est importante. Des lieux de vie vraiment complets avec des équipes extraordinaire en fait. Donc c'est ça aussi en fait un CFA.
Un CFA. Et alors donc vous aviez à cœur Emmanuel de nous parler des trophées de l'apprentissage 2025. Un moment que vous avez un petit peu mis vous en exergue depuis que vous êtes arrivé, si j'ai bien compris.
Alors ce sont nos trophées, oui. Je dirais, c'est notre cérémonie de diplôme. On met en avant en fait la réussite de l'ensemble de nos apprentis. C'était 222 diplômés cette année.
Oui,
on a accueilli, on a essayé d'accueillir, tout le monde n'a pas pu venir. On a accueilli au CFA, corps même en fait de l'activité du CFA, et grâce aux entreprises partenaires, on a pu mettre à l'honneur donc la CAPEB, la FFB, mais je pourrais parler des entreprises comme Delaby, Groé, et beaucoup de petites entreprises aussi, qui MS Work notamment, et d'autres, qui ont pu nous soutenir. En fait, on a pu remettre des jolis cadeaux aux apprentis. Pardon, qui ont pu recevoir une mention très bien, mais aussi des parcours méritants, Aliane, mais tant d'autres derrière, qui ont aussi le mérite de pouvoir s'investir en CAP, en BP. On ne décroche pas forcément une mention très bien, mais pour autant, le parcours est méritant. Mettre en avant la filière bois, la filière fluide, qui est l'une des filières les plus importantes du CFA, avec un partenaire historique qui est Groé. Ce sont ça nos trophées de l'apprentissage. Oui, fois par an, on réunit nos apprentis pour pouvoir les célébrer.
Les mettre à l'honneur.
C'est très important.
Je crois que vous êtes aussi en partenariat avec la CCI puis la CMA. Hein, donc,
on travaille conjointement, en tout cas, effectivement.
Conjointement.
Ouais.
Jean-Luc, vous vouliez dire quelque chose à propos de ces trophées?
Ah oui, non, mais moi, je suis fan.
Oui, vous êtes fan.
franchement, il y a des jeunes qui sont épanouis. C'est ça, je le répète, c'est ça qui est essentiel. C'est des gens épanouis. Il faut qu'on soit épanoui dans son métier. Donc, ce sont des jeunes qui sont épanouis, ce sont des jeunes qui sont méritants, ce sont des jeunes qui sont récompensés, et tant mieux. La CAPEB fait sa part du boulot, c'est pas le sujet. C'est super important. Et je vais dire aussi autre chose, c'est que ces jeunes apprentis, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourront se mettre à leur compte.
Oui.
Et là, la CAPEB a son sens. Parce que la CAPEB accompagne les gens qui veulent créer des entreprises aussi. Donc, on sait très bien qu'il y a une part de ces créateurs qu'on va accompagner pour la création de leur entreprise. Y compris, effectivement, en reconversion, Monsieur Maillette en a parlé, j'en ai parlé, mais moi, j'ai rencontré quelqu'un sur Nangy, oui, je dis bien, donc Sud 77, très loin d'ici. En reconversion, un ancien militaire. Ancien militaire, il était électrotechnicien, et ben il a fait une reconversion, il a été primé, voilà, et il va monter son entreprise, si je me trompe pas, je crois, de menuiserie, voilà, donc c'est et tant mieux et bravo,
on a besoin
de ces gens-là, et on a besoin de la transmission de ce savoir-faire, parce que nous on cherche à le transmettre. Le BTP CFA est un outil majeur pour transmettre ces savoir-faire, et savoir-être. Mais c'est savoir-faire, et donc on sera à nouveau,
vous êtes,
je le répète, on
présent.
Sera partenaire de ces BTP CFA, c'est essentiel. J'ajoute que Monsieur Maillette l'a pas encore dit, mais va peut-être le dire après. Il y a des jeunes qui cherchent encore des employeurs, et nous on diffuse. Alors
vous pouvez
retourner sur la page Facebook de la Grande Couronne.
Il y a le
listing des jeunes qui cherchent encore un employeur.
C'est
mais de toute façon
dire.
Aujourd'hui, Monsieur Maillette le dira mieux que moi, mais un apprenti peut rentrer dans le cursus de formation quasiment tout le temps, du moment qu'il a
l'acceptation
de son dossier.
Donc Faisal et Jean-Luc, vous prenez forcément des apprentis.
Jacqueline, avec le temps que je passe pour la Grande Couronne, ça m'est compliqué aujourd'hui
parce que
j'estime que prendre un apprenti, c'est pas.
Faut être tuteur.
Je vais préciser ma pensée. Prendre un apprenti, c'est pas prendre un manœuvre. C'est un apprenti, on investit dessus. Moi, j'ai toujours dit, quand je dis apprenti, je dis, moi, je te fais confiance. Je te prends parce que je pense que tu en vaux le coup et on va construire quelque chose pour toi ensemble. Ce que je vais éventuellement perdre en temps au début, tu vas me le redonner plus tard parce que tu vas m'amener quelque chose de plus à la fin de ta formation. Voilà. Et si on peut, on continuera à travailler ensemble. Ce qui m'a permis de fermer des... J'ai rencontré Monsieur Pont, qui est directeur du CFA de Saint-Denis, avec qui j'ai eu beaucoup d'apprentis. On a parlé d'anciens salariés que j'ai eu, qui étaient des apprentis, qui sont devenus chefs d'entreprise aujourd'hui. Ça, c'est super. Mais c'est un investissement. Mais ce retour sur investissement, vous l'avez un peu plus tard. Donc, il faut du temps. J'ai plus ce temps. Mais j'en ai formé, oui, quelques-uns. Croyez-moi, mes parents aussi.
J'imagine. Faisal aussi.
Oui, nous, on a toujours eu des apprentis dans le passé. Là, malheureusement, depuis à peu près 2 ans, J'en ai plus trop, suite à la baisse d'activité
tendu,
aussi.
Oui.
Ouais, le marché est tendu. Et comme disait Jean-Luc, c'est de l'investissement, c'est du temps. Parce que comme il disait, c'est vrai que c'est pas un manœuvre. Donc, moi, je lui demande, nous, en tout cas, quand nos apprentis venaient, je leur dis, il faut que tu aies tes outils. Parce
Bien
que tu vas y aller.
Tu vas y aller.
Après, évidemment, comme tous les apprentis, tout le nettoyage, tout le rangement, c'est à lui de le faire. C'est pas au compagnon de le faire. Mais oui, ils sont tous passés par là. Nous, écoutez, on les a formés comme
ils n'ont pas été traumatisés.
C'est notre façon de faire. Et pour moi, voilà, c'est le passage obligé. Parce que de toute façon, ça leur servira. Savoir ranger son matériel, savoir nettoyer.
Un jour, ils seront eux-mêmes patrons.
Et c'est ça, ou même ouvriers qualifiés. Donc, de toute façon, travailler avec des bonnes habitudes dès le début, c'est ce qu'il faut.
C'est important.
Donc, c'est important. Et voilà, nous, c'est vrai qu'on a toujours eu des apprentis. Et moi, dès que j'ai la possibilité, de toute manière.
Vous les faites venir.
Exactement.
Merci beaucoup.
Et c'est important de transmettre notre savoir-faire et que, en effet, le savoir-faire perdure aussi.
Je comprends. Oui, Emmanuel, en tout cas, vous voyez que la transmission, elle est en place. Hein.
Alors, elle est en place. On sait pouvoir compter sur nos partenaires et les institutions comme la CAPEB et aussi la FFB et d'autres.
Bien sûr.
Pour nous soutenir, en fait, dans cette démarche, pour accompagner les apprentis, les jeunes. Parce que finalement, le Graal, si je peux me permettre, mais pour rentrer, en fait, dans un CFA, la clé, tout du moins, c'est de trouver, en fait, une entreprise.
Oui.
Que ça soit un contrat d'apprentissage pour les apprentis, avec les règles qu'on peut connaître, je ne vais pas rentrer dedans, ou pour quelqu'un qui veut se reconvertir sur d'autres types de financement. En tout cas, à un moment donné, ça ne peut que s'opérer.
C'est la condition sine qua non. C'est ça.
Et effectivement, on a des jeunes qui, aujourd'hui, vont perdre leur entreprise parce qu'une entreprise ferme, parce que plusieurs raisons en fait peuvent arriver. Pourquoi un apprenti perd son entreprise, ça arrive en tout cas dans tous nos CFA. Et donc l'idée, c'est de pouvoir en fait les accompagner pour retrouver une entreprise, et c'est toujours intéressant de pouvoir s'appuyer sur nos partenaires. Je voudrais dire en fait venez visiter le CFA d'Hermont.
Oui, vous me l'avez proposé, il faut que je vienne.
Je vous connais
la partie esthétique, mais je ne connais pas la partie...
La partie Hermont-Aubonne, en fait, quand on parle en fait du CFA, donc l'IMA des métiers, de la beauté, en fait, qui est juste en face de nous, mais il y a aussi un lycée professionnel, Ferdinand Buisson, et il y a le CFA, en fait, du bâtiment, le BTP CFA d'Hermont, c'est quasiment 1500, un pôle de 1500 jeunes, en fait, qui sont ici. Mais n'hésitez pas à venir nous rencontrer, et notamment lors de notre porte ouverte, en fait, du 17 janvier. Et puis, on a lancé un nouveau concept, en fait, la semaine dernière, qui est Vie ma vie. Donc là, on a accueilli des adultes, en fait, sur 2 jours, qui sont venus vivre la vie de métallier. Donc, n'hésitez pas à venir, en fait, dans ces programmes-là. Et je terminerai sur le grand thème, en fait, qu'on se donne pour... j'en ai entendu parler un peu ici, et c'est très bien, mais sur la féminisation des métiers du bâtiment.
Oui.
C'est un thème, en fait, qu'on veut mettre en lumière cette année, en fait, chez nous. Donc, on va y travailler. Il y aura un premier acte le 13 mars sur, justement, la place de la femme, et plutôt dans le 95, en fait, dans le bâtiment. Donc, on a déjà, effectivement, commencé à se rapprocher de nos partenaires pour pouvoir organiser, en fait, notamment cette table ronde, expo, notamment photo, parcours initiatif, en fait, sur les différents métiers. Donc, on va travailler aussi sur sur ces choses-là, parce que je trouve qu'un CFA est un lieu de vie, et donc il faut apporter tout ce qu'on peut apporter pour le savoir-être, le savoir-faire, mais aussi pour l'ouverture. C'est important.
Je comprends, c'est vraiment primordial. Oui, Jean-Luc, vous vouliez dire que je vous sens
impatient. Toujours un truc à dire. Non, juste signifier qu'avec BTP CFA Île-de-France, la CAPEB fera un événement en 2027 pour vraiment montrer cette nouvelle dynamique et récompenser des jeunes, peut-être dans un autre cursus, mais ça devrait être un bel événement régional. Et donc, on y travaille. Là, ça a été lancé tout dernièrement, n'est-ce pas, Monsieur Maillette? Et
ce sera un beau projet.
Vous voyez qu'on construit des choses à long terme, parce que 2027, ça se fait pas comme ça. Il y a tout à mettre en place. Mais voilà, on a besoin de cette dynamique pour mettre en valeur ces jeunes qui réussissent. Et c'est important qu'ils réussissent.
Et ça reprend un peu ce que vous m'aviez dit au début que vous veniez dans cette émission, que malgré tous les soucis que vous rencontrez, vous restez sur le pont à essayer d'être actif le plus possible. Hein.
La marque de fabrique de l'artisanat du bâtiment CAPEB,
c'est ça.
C'est de la compétence, de la pertinence, et on va pas aller chercher des gens à droite, à gauche pour travailler dans nos entreprises. On a besoin de gens qui savent bosser. Voilà. Parce que, enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai dit à mes gars. Il faut, quand on part du chantier, il faut qu'on soit fier.
Bien sûr. Oui,
fier du travail accompli. Ouais. Montrer quelque chose de propre, que le client soit content. Quand votre client est content, vous êtes payé.
Bien sûr. Tout va bien.
Donc, il n'y a pas de sujet. Voilà.
Merci, Jean-Luc. Emmanuel, justement, sur la féminisation des métiers du bâtiment, vous avez des chiffres à nous donner? C'est-à-dire que c'est en hausse quand même?
C'est en hausse, ça reste en tout cas à notre échelle encore un pourcentage
pas suffisant,
pour votre... on est à 2%, 3% de jeunes filles en fait dans notre établissement, ce qui représente 10 jeunes filles et qui rencontrent en fait de multitudes de difficultés pour intégrer les entreprises aussi, parce que la difficulté n'est pas que dans le CFA, elle est dans le contexte économique, c'est un peu global. C'est pour ça qu'il nous paraît intéressant de travailler sur ce thème-là. Donc il y aura cet acte notamment là, cet acte 1 le 13 mars. Bien entendu, n'oubliez pas de venir sur nos portes ouvertes le samedi 17 janvier
Bien
entendu, c'est important de le préciser pour rencontrer les formateurs, mais aussi toutes les équipes et des jeunes qui pourront vous guider au travers le CFA et certainement des jeunes filles qui pourront aussi nous guider. Voilà, c'est un travail d'équipe globale.
Pour rester encore une fois sur ces jeunes filles, elles vont plutôt vers dans quelle direction ?
Aujourd'hui, on va avoir peut-être un peu plus de jeunes filles en menuiserie, mais il y a des jeunes filles en électricité, il y a des jeunes filles en maçonnerie, il y a des jeunes filles en plomberie sur la partie sanitaire. Je dirais qu'en fait, tout est possible en fait. Il n'y a pas de limite à partir du moment, encore une fois, on arrive à signer un contrat d'apprentissage et donc à trouver une entreprise. C'est toujours en fait cette partie-là. Donc on les accompagne de la meilleure façon et je pense qu'on peut se mettre tous autour de la table, discuter et trouver d'avancer sur ce sujet-là.
Des arguments pour les convaincre. Jean-Luc ?
J'ai bon espoir parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont aujourd'hui gérées par des femmes, donc des femmes artisanes ou des gérantes d'entreprise, et donc forcément ces personnes vont avoir plus de facilité à se tourner vers les apprentis filles, femmes. Je pense que ça va s'accélérer. Je pense que ça va être apprécié parce que il y a beaucoup plus de sagesse, faut pas se cacher, hein. Il y a beaucoup plus de sagesse chez les jeunes filles que chez les jeunes hommes. Donc non, c'est important et je pense que ça va se démocratiser, se développer.
Et comme vous le dites très justement, c'est aussi une façon de pouvoir se mettre à son compte. Donc
tout à fait.
Les femmes peuvent le faire également.
Tout à fait.
Merci à tous les trois. Je crois qu'on aurait pu continuer l'émission, mais bien sûr, l'heure tourne et il va falloir se quitter. En tout cas, merci pour votre passion. On sent que vous êtes complètement investis tous les trois dans votre catégorie. Donc, bravo. Et puis, ne changez rien à votre façon de faire.
Merci.
On a juste une petite tradition. On termine avec un mot de conclusion. Donc, je vous laisse la parole, Emmanuel, pour ce petit mot de conclusion avant de nous quitter.
Ah mais moi je dirais vive l'apprentissage, qui apporte tellement de choses en fait aux jeunes et aux entreprises, faut pas oublier en fait, c'est toujours ça, donc le mot de la fin, venez nous rencontrer.
Bah oui, on sera là le 17 janvier, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Faisal, un mot de conclusion.
Bah écoutez, merci de nous avoir reçus, déjà. Et puis nous, au niveau de la CAPEB, on a un événement qui sera organisé donc le 13 février.
13 février,
donc,
d'accord.
Port Marly. Donc ça fera... c'est une rencontre avec plusieurs thèmes. Donc tout le monde peut venir,
adhérents, non-adhérents. Bon, ben nous, on relaiera le 17 et le 17 janvier pour le CEF Adhermont et puis le 13 février pour la CAPEB. Merci, Faisal.
Merci à vous.
Jean-Luc, vous aviez un petit mot au niveau du recrutement.
Ouais, je vais être un peu plus long que mes deux prédécesseurs.
Oui.
La première chose, c'est vraiment l'actualité. C'est ce mouvement du 17 février qui, j'espère, va porter ses fruits. Les rencontres que nous avons faites sont très importantes. Les sujets sont majeurs. C'est vraiment un enjeu pour le bâtiment. Et je le répète, nous en avons marre. Nous en avons vraiment marre. Sur le terrain, je contiens pour l'instant, mais peut-être que je pourrais plus contenir.
Oui, il faut pas, comprends.
La,
oui,
parce les fêtes que vont passer.
La colère
les fêtes
gronde.
Vont passer. La colère monte et gronde vraiment, vraiment. Hein. Je peux vous dire que moi, je me suis fait interpeller 2-3 fois en me disant, ouais, c'est pas assez, il faut faire plus, etc. Donc, vous voyez qu'il faut plutôt calmer que,
si
je veux mettre de l'huile sur le feu, je peux, hein.
Vous
mais
pouvez,
pour l'instant,
ouais.
j'en mets pas. Donc, faut vraiment qu'on soit écouté sur ce sujet. C'est très important. C'est vraiment la vie de nos entreprises et donc de l'emploi. Et si nous disparaissons, c'est comme dans d'autres domaines, ce sont des gros qui vont tout récupérer. Et alors là, je peux vous dire que les prix, ça va être des prix forts. Parce que c'est toujours la même chose. Hein. Quand vous n'avez pas de concurrence loyale,
bien sûr,
forcément,
ouais,
les prix montent.
Ça fait économique. Ça fait des sortes de consortiums qui s'entendent. Ouais. Donc,
j'ajoute autre chose, c'est que les élus de la CAPEB ont été invités par notre président national à s'investir aussi dans les vies municipales. Et vous savez que l'année prochaine, nous avons les élections municipales. Moi, je serai sur une liste. Dans ma commune. Pourquoi ? Parce que l'artisan du bâtiment a besoin d'être un acteur. Voilà. On a besoin de défendre l'économie locale, on a besoin de défendre les commerçants, puisque je suis UDOP, on a besoin de défendre les artisans, de toutes parts, les artisans d'art, les artisans. Voilà. Mm-hmm. Je suis élu CMAR, donc je sais de quoi je parle. Donc je suis sur une liste, ensemble pour Viarme, à Viarme, avec tête de liste Laurence Bernard. Je m'en félicite et on encourage la CAPEB, on encourage à ses élus aussi à aller s'investir dans la vie municipale, c'est important. Parce qu'il y a vraiment des sujets aussi en interco. Il y a de grands sujets, comme je vous l'ai dit, en délégation, on n'a pas parlé, on pourrait en parler encore. C'est très, très, très important.
Ben oui, on le voit bien à travers tous les exemples que vous nous avez donnés.
Et j'ajoute autre chose, c'est que les acteurs communaux, enfin, les communes ont vraiment un rôle dans la lutte contre la fraude à la rénovation énergétique. Vraiment, hein, vraiment. C'est un sujet. Il faut pas qu'on loupe,
ce virage, oui.
D'autant plus que au niveau économie, ça va pas bien. Aujourd'hui, nous avons des communes qui anticipent des travaux de manière à dire on a fait ça, c'est bien, c'est super, etc. Donc, et c'est d'autant de travaux qui ne seront pas faits en début du futur mandat.
Bien
donc
sûr.
Il va y avoir un temps de coupure, un temps de latence pour que ça redémarre. Donc 2026 va être compliqué. On va quasiment enchaîner sur 2027. Je veux pas broyer du noir, mais si on nous écoute pas, ça va mal finir.
Ouais, ça va mal finir. Ouais. Non, mais je
plus sois au propos de Fessal, le 13 février, un très bel événement organisé par la CAPEB Grande Couronne Île-de-France à Port-Marly aux Pyramides, ouvert, donc il y aura députés, sénateurs, monsieur le préfet, une sous-préfète à l'économie, déjà hein, dans le listing établi aujourd'hui, donc voilà, ouvert aux adhérents CAPEB, ouvert sur inscription aux non-adhérents, et donc un beau moment politique, je le veux, parce que une fois de plus, passera des messages.
C'est important. Bah écoutez, vous nous ferez passer le communiqué de presse pour qu'on puisse le relayer à sa juste valeur.
Et je souhaite de bonnes fêtes à tous vos auditeurs.
Oui, merci infiniment. Moi, je voulais vous dire, Jean-Luc, il faut revenir plus souvent. Hein, vous savez que je vous le propose et donc il ne faut pas hésiter.
Merci en tout cas à vous.
Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir défendu comme ça votre activité et puis vos convictions. On sait que la filière BTP, malgré les défis, reste un vrai pilier de l'économie locale, hein, grâce à l'innovation, la formation et puis la lutte contre les dérives, ce que vous faites. Merci Francky pour la technique. Merci Erwan d'avoir été à nos côtés. Merci à vous tous, chères auditrices, auditeurs, chers partenaires, hein, de nous suivre avec fidélité. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur idfm98.fr. Une émission, donc, comme j'ai dit au début, qui marque la dernière de l'année 2025. Une année encore riche, hein, en échanges et en débats passionnants. Toute l'équipe d'IDFM Radio vous souhaite à toutes et à tous un Noël rempli de joie et une belle fin d'année. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver en janvier 2026. D'ici là, joyeuses fêtes. Et surtout, restez connectés hein, pour ne rien manquer des émissions à suivre. Belle journée et bon week-end.
IDFM, 98FM.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous donne rendez-vous tous les samedis dès 16h sur IDFM Radio avec Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture pour parler des artistes et des spectacles à l'affiche.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur IDFM Radio.